19h passée d'une minute sur Radio Campus Paris, mardi 15 décembre, dans une heure, la nuit est interdite. Vous écoutez Jeannot jusqu'à nouvel ordre sur le 93.9 FM.
Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre.
Quel silence, hein.
Il veut nous guérir du coronavirus à travers l'écran.
Il n'y a pas de virus, il n'y a rien du tout pour moi, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, comme les grippes, comme d'habitude, rien. Voilà.
Ça va?
Oui, très bien.
Petit coup de coude, même à distance maintenant.
Moi, je suis tout namasté, moi.
Ça va alors?
J'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre.
Je veux dire, la vague arrive, elle va arriver ici et ça va secouer sérieusement.
Aujourd'hui, on sait très bien que la situation sanitaire, elle est grave.
À partir de ce lundi, jusqu'à nouvel ordre.
Jusqu'à nouvel ordre. Le journal de bord et des débordements des bénévoles de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi à 19h.
Bonsoir mes amis, bonsoir. Un fait divers en guise d'introduction, c'est une histoire qui s'est déroulée le 5 novembre dernier et qui, vous l'entendrez, nous plonge pour un instant, façon caméra embarquée, dans les dernières minutes de liberté de deux jeunes criminels. Ils ont 22 ans, deux adultes, donc pour peu qu'on le soit réellement à cet âge. On a choisi de les appeler Anaïs et Arthur, mais peut-être que ce ne sont pas leurs vrais prénoms. Anaïs est enceinte, elle arrive au terme d'une grossesse compliquée qui a été suivie médicalement à l'hôpital de Bourg-en-Bresse. Arthur, lui, est en fuite. Un soir, il n'est pas revenu de permission à la prison au sein de laquelle il est incarcéré. Le monde s'est réduit à eux deux au sein d'une petite chambre d'hôtel près d'Avignon où ils parlent de disparaître, refaire leur vie anonyme. Mais Anaïs est prise de violentes douleurs au ventre. Il faut aller à l'hôpital là où on la connaît, où on pourra prendre soin d'elle. La douleur est terrible, Arthur n'a pas le temps de réfléchir. Pas de train, on pourrait les reconnaître, et puis la femme qu'il aime a trop mal pour le prendre seul. Alors le destin agit pour eux sous la forme d'un camion-pompe, les clés sur le contact dans le centre-ville où il passe. Arthur grimpe, il entraîne sa compagne. « J'étais lancé, j'ai paniqué, j'ai continué jusqu'au bout », expliquera-t-il, blême face au juge. L'adrénaline frappe vite et fort, le propriétaire du camion les poursuit en voiture, Arthur le percute, défonce la barrière d'autoroute et s'engage sur la 7. Les gendarmes prévenus sont à leur trousse. Sur la bande d'arrêt d'urgence où il file à grande allure, Arthur frôle l'accident, valse de droite et de gauche, file sur la bande d'arrêt d'urgence, montre un couteau au gendarme arrivé à sa hauteur, puis appelle le 17 et crie « Qu'ils arrêtent de me suivre, j'ai un camion plein de gaz ». En réalité, il n'y a que de l'eau dans le camion et sa femme sur la banquette avant, sa partenaire de crime depuis leurs 16 ans, avec qui il a commis des vols, vols avec armes, violence, carjacking. La seule personne peut-être en qui il a confiance parce qu'elle est aussi coupable que lui. Enceinte et en plein martyr. La course folle s'arrête 140 km plus loin alors que les services des forces de l'ordre, ignorant l'état de la jeune femme et pensant à une entreprise terroriste, ont bloqué l'autoroute à l'aide de poids lourds pour stopper le jeune couple qui ne rejoindra pas l'hôpital. Il le savait, mais c'était trop tard. Le camion était lancé, le cerveau en surchauffe cherchait désespérément une issue au milieu du brouillard de la panique. Voilà. Deux mois plus tard, jugé et copant tous deux de peine de prison, il s'excuse, un peu misérablement en fin d'audience, aux gendarmes dont la vie a été menacée. Arthur trouve son attitude stupide, dit qu'il aurait dû appeler les pompiers, mais sur le moment, peut-être qu'il n'y avait qu'elle qui comptait. Anaïs, sa souffrance et la panique qui monte en tête, étrangle et aveugle la raison jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une action désespérée. Stupide, pour ne pas les citer. Que ne fait-on pas, pardon, pour soulager la douleur de ce qu'on aime. Vous écoutez le 93.9 FM.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi, à 19h, sur Radio Campus Paris.
C'est un retour en studio, je crois qu'on peut le dire quand même, ça nous fait plaisir à tous, quelques personnes qui sont derrière la vitre de chaque côté. Quel bonheur de vous parler, je vous plante le décor un petit peu, on a cette espèce de joie fugace là probablement, qui nous prend probablement avant de se reprendre un confinement sur le coin de la gueule, mais bon sang quand même, quelle joie. Derrière la vitre, la talentueuse Margot Page en régie, grâce à qui ma voix vous paraît si sensuelle. Margot, on va faire un truc qui passera très bien en radio, si tu es contente d'être là, hoche la tête. Elle danse sur la console régie. Anaïs Martinez, notre productrice, a travaillé cette semaine malgré la dépression nerveuse qui la guette, notamment en nous réservant un créneau au téléphone avec Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po, ancien chef de service au commissariat général du plan, on vous expliquera, auteur de plusieurs ouvrages portant sur la philosophie politique et les relations internationales. Pourquoi ? Parce que nous sommes, pour vous résumer brièvement la situation, dans un couscous pas possible. Crise financière, crise des institutions, crise sanitaire, crise démocratique. Ce dénominateur commun de la crise n'appelle pas à la réflexion, mais bien à l'action directe, au coup d'éclat. Qui réfléchit alors ? Du gouvernement, qui pense l'action, la ligne politique profonde, ses motivations, ses risques, sa nécessité, comment penser le long terme ? Ce sera dans quelques instants. Un peu plus tard, un reportage de la rédaction de Radio Campus Paris sur le mouvement de résistance contre l'interdiction de l'avortement en Pologne. Le Zoom ce soir, c'est avec Pauline Rossano, ce qui est un très bon nom de radio, ça, Pauline Rossano, c'est plein de promesses. Au programme, un webzine qui combat le tabou des règles, dresser l'oreille, le jeune et vaillant Nicolas Rivoisi sera lui aussi présent en deuxième partie d'émission pour nous parler bouquinerie. Il y aura aussi Nati pour une chronique d'entre deux, et puis pour refermer cette heureuse parenthèse, la verve majuscule du Dipitum, qui est déjà à ma droite, trublion du désespoir, corde raidisse de l'humour comme un peu de sel sur vos plaies. sais pas du tout si cette cicatrice les plaît, peut-être ne faites pas ça chez vous. En tout cas, si vous êtes docteur, appelez-nous. Je le rappelle, le numéro de l'antenne sera demandé à la réalisatrice. En attendant, vous écoutez Jeannot comme un gros lapin fluffy, jusqu'à nouvel ordre sur 93.9 FM, roulement de tambour, tagadagada, jingle.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi, à 19h, sur Radio Campus Paris.
Ça m'étonnerait que ça vous ait échappé, mais les crises mondiales sont multiples en ce moment. Crise du coronavirus, crise des institutions, crise démocratique. Je suis moi-même probablement proche d'une rage de dents, là où on en est. On a essayé et réussi ce soir à joindre au téléphone Nicolas Tenzer. Nicolas Tenzer, vous êtes avec nous, on vous entend ? Ah bah merveilleux ça, merveilleux. Merci de prendre du temps pour nos auditeurs et nos auditrices. Je vous présente, métaphoriquement parce que vous n'êtes pas là, je vous présente Pitoum qui est à ma droite et qui mènera l'interview à mes côtés.
Bonsoir.
Que de civilité, j'adore. Vous êtes Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po, ancien chef de service au commissariat général du Plan, et vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages portant sur la philosophie politique et les relations internationales. Alors, on a un petit quart d'heure à passer ensemble. Et j'aimerais le consacrer à la question de la pensée politique et surtout comment la pensée politique peut-elle être réalisée, effectuée sur le long terme face aux nombreux problèmes que nous traversons. Je voudrais déjà commencer par essayer de définir un petit peu votre métier pour les gens qui nous écoutent. À partir du moment où vous êtes levé, vous avez pris votre petit café, comment se déroule votre journée, Nicolas Tenzer ?
Bah écoutez, ma journée se consacre, est consacrée en général à la fois à des conférences, des lectures, beaucoup d'écrits évidemment, d'articles, des interviews à la télévision, à la radio. Et puis parfois évidemment des coups de fil, des conseils à un certain nombre de dirigeants politiques je participe à des travaux dans des think tanks, c'est une activité intellectuelle qui n'a pas de limite en fait, c'est ça le problème, c'est-à-dire que ça commence tôt le matin et ça se termine en général tard le soir et avec le sentiment que le travail n'est jamais complètement achevé.
Le sera-t-il un jour ? Probablement pas. Pour commencer, dans le schéma actuel de nos institutions, on a un président qui dirige, un chef de gouvernement, des ministres, où se situe, où est-ce que vous avez pu le constater vous-même, la pensée politique en action dans l'exercice quotidien du pouvoir, la réflexion, qui réfléchit sur le long terme à l'Élysée ?
Mais je pense que c'est un véritable problème, c'est-à-dire que très souvent, les dirigeants politiques, que ce soit à l'Élysée ou dans les ministères, sont pris par les urgences du quotidien, il y a des crises à résoudre, il y a des décisions à prendre. Moi, je me rappelle par exemple le directeur de cabinet d'un ancien Premier ministre qui me disait « mais c'est absolument terrible, toutes les deux minutes, je suis obligé de rendre des arbitrages pour le compte du Premier ministre ». Et très souvent, les membres de cabinet sont dans cette situation d'urgence. Donc le temps de la réflexion, finalement, est faible. Ils n'ont pas beaucoup le temps de lire, ils n'ont pas notamment le temps d'ailleurs d'écouter des émissions à la télévision, à la radio. Ils n'ont pas le temps non plus de sonder les cœurs et les esprits des citoyens. Je pense que c'est un des vrais problèmes. Et j'ai vu dans l'ancien commissariat général du Plan, qui est plus exactement la même chose maintenant, c'est France Stratégie, et puis il y a le commissaire au Plan qui a été nommé, là,
François Bayrou, en septembre.
Mais on avait, dans ce temps-là, on avait une capacité de réfléchir sur le long terme, de faire des propositions, de consulter un certain nombre d'experts, de philosophes français, mais aussi étrangers, des sociologues, des historiens, etc. Et ça permettait d'essayer de voir au-delà des mots, au-delà de l'urgence, comment penser le long terme. Ça pouvait se traduire d'ailleurs, par exemple, sur des sujets qui sont très techniques parfois, par exemple ceux de la réforme de l'État, où souvent certains se disent, comment ajuster les fonctions des différents ministères, il faut réduire des effectifs, etc. On disait, mais non, essayons de réfléchir sur les missions à long terme. C'est-à-dire que même si on prend par exemple la question de la crise sanitaire, une chose que beaucoup de gens ignorent, c'est que cette crise sanitaire, elle était prévue. Il y avait des rapports, aussi bien en France qu'aux États-Unis ou ailleurs, qui disaient il est tout à fait possible d'avoir ce type de pandémie. C'était décrit. Alors on ne savait pas quand elle surviendrait, comment exactement, on ne connaissait pas ses modalités opératoires, mais on savait qu'il y allait quelque chose qui était possible, voire probable.
Pourquoi ils ont été ignorés, ces rapports ?
Pardon ?
Pourquoi ils ont été ignorés, ces rapports ? Qu'est-ce qui a failli dans la mécanique ?
Ils ont été ignorés pour une raison très simple, c'est qu'à un certain moment, d'abord, ce n'est pas sûr que les dirigeants politiques, les élus, et ensuite, on est dans le court terme, on gère une crise après l'autre. Et très souvent, on ne prend pas le temps d'anticiper et de se dire, préparons-nous. C'est comme ça, par exemple, qu'on a détruit, c'était des gouvernements bien avant celui-ci d'ailleurs, on a détruit par exemple des stocks de masques et on ne les a pas renouvelés parce que ces masques étaient périmés, mais on n'a pas pensé à renouveler tout ce stock. Bon, parce que tout simplement, dans l'urgence, on n'envisage pas tellement ce long terme. Moi, j'ai vu, par exemple, aussi, c'est une expérience, discutant avec un autre, d'ailleurs, directeur de cabinet d'un autre Premier ministre, il disait, par exemple, c'était, vous savez, l'histoire du CPE, vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en 2010.
Oui, j'étais dans l'arme.
Ben voilà, finalement, tout ça, ça va passer crème. Moi, je disais, attention, non, peut-être pas. Essayons de voir, essayons d'analyser les tendances dans la société, essayons d'analyser les peurs, les inquiétudes.
Justement, aujourd'hui, donc là, on le voit au niveau de l'exécutif, c'est ce que vous semblez dire, il n'y a plus vraiment ce temps de réflexion. Est-ce que dans le paysage politique, il y a quand même des institutions ou des groupes politiques, politisés, qui pensent un peu plus ce long terme et qui font des propositions qui vont en ce sens, malgré tout ? Ou est-ce que vraiment on a perdu ça ?
Oui, je crois qu'il y en a relativement peu. Enfin, il y en a sur certains secteurs. On le voit par exemple sur l'environnement, où là, il y a des gens qui réfléchissent, qui alertent sur le plan national, mais évidemment aussi sur le plan international. Ça, c'est tout à fait exact. En revanche, sur un certain nombre d'autres sujets, je trouve que cette réflexion est beaucoup trop limitée. Pour une raison d'ailleurs institutionnelle en France qui est assez frappante. Même si les think tanks, c'est-à-dire les laboratoires d'idées, se développent, ils n'ont pas du tout l'influence ou l'impact qu'ils ont aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans certains pays nordiques, en Allemagne, etc. Et pour une raison aussi simple, c'est que les carrières des personnes, que ce soit des fonctionnaires ou des universitaires, des chercheurs, etc., sont des carrières en silo, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce sont des mondes qui s'ignorent. J'ai eu la chance de faire un parcours un peu atypique, à la fois fonctionnaire, intellectuel, écrivain, enseignant, etc. En fait, c'est assez rare en France. Je ne veux pas jeter des fleurs pour ça, ce n'est pas le sujet, mais très souvent, il est très difficile de passer de l'un à l'autre, alors que dans d'autres pays, d'abord, les gens sont formés dans les mêmes écoles, les mêmes universités, les gens se côtoient, et puis, en fonction des alternances politiques, des moments de la vie, des opportunités, les gens enseignent, puis ils reviennent dans l'administration, puis après, ils font du conseil, etc. Et en fait, ce genre de carrière en France, finalement, sont très limitées. Je pourrais dire que c'est aussi bien vrai d'ailleurs du côté des universitaires que des hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires sont souvent caractérisés par une forme d'anti-intellectualisme, précisément parce qu'ils n'ont pas cette familiarité avec la pensée, et que souvent même la formation initiale ne les incite pas à travailler sur la philosophie et sur l'histoire. Et puis de l'autre côté, on a des universitaires qui, eux, considèrent que surtout le monde politique est sale, qu'il ne faut pas y mettre les mains. Alors ils vont faire des constats, mais ils ne vont pas passer du côté des propositions. Et je pense que c'est cette distinction, cette distance entre l'action d'un côté et la réflexion de l'autre qui est véritablement problématique chez nous.
Problème de communication donc entre la partie qui réfléchit le pouvoir et celle qui l'exécute. On a encore un peu de temps à passer ensemble, mais je sens que vous avez envie d'écouter un petit peu de soul, Nicolas Tenzer. J'ai senti comme une envie dans votre voix, et en plus tout le monde n'a retenu que ce que vous avez dit pour vous jeter des fleurs tout à l'heure. Donc voilà, ça commence très très mal. Écoutons un peu de soul, tiens.
Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fat bag drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right. Now just a little pinch of organ. Now give me a half a pint of horn. That's it right there. We'll be right back.
Soul, King Curtis et son Memphis 2. Vous écoutez naturellement le lieu de toutes les bonnes musiques, le 93.9.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Tant qu'il nous reste des jambes pour danser. De retour en studio avec Nicolas Tenzer, professeur à Sciences Po, qui intervient avec nous au téléphone ce soir sur la question de la manifestation de la pensée politique en temps de crise.
Vous parliez, Nicolas Tenzer, tout à l'heure, de vous faisiez une comparaison entre les politiciens français et la politique française et celle des pays étrangers, où pour vous, il y avait une porosité plus grande entre le milieu universitaire notamment et le milieu politique. La question quand même qui me vient à ce moment-là, c'est pour vous, on a des exemples de pays qui sont beaucoup plus, qui sont plus capables actuellement d'avoir une vision long terme que nous. C'est une spécificité française, la situation dans laquelle on est, à savoir une politique instantanée.
C'est-à-dire, oui et non. Il y a des pays quand même qui sont à peu près comparables aux nôtres de ce point de vue-là. Et ensuite, il y a quand même un autre phénomène, malgré tout, qui va un peu limiter ce que je viens de dire. C'est que, aussi bien, par exemple, les grands think tanks, universités américains, britanniques, allemands, etc., sont peut-être plus connectés avec le milieu de l'administration, mais aussi le Parlement, ce qui est un point très important. Il y a beaucoup plus d'auditions, etc. Mais en même temps, ça ne veut pas du tout dire que l'influence dans la politique quotidienne soit toujours aussi forte. C'est-à-dire que malgré tout, on retrouve aussi cette difficulté de l'action. Je ne vais pas entrer dans les détails, d'ailleurs, s'intéresser par exemple au fonctionnement du National Security Council américain, c'est-à-dire l'organisme qui conseille le président américain sur toutes les questions de politique étrangère et de défense. Et on voit d'ailleurs que suivant les présidences, la perméabilité entre la pensée politique qui viennent des universitaires, des milieux intellectuels, etc., et l'action est quand même plus ou moins forte. Il y a vraiment des variations parce que ça, c'est la pratique du pouvoir. Un président, par exemple, américain ou autre d'ailleurs, n'est pas égal à tout autre. Bon, ça, c'est tout à fait vrai. En revanche, il y a effectivement des pays qui ont décidé de mieux planifier. Il y a un exemple, alors ce n'est pas complètement une démocratie, quand même, il faut le dire, et ce n'est pas toujours un pays exemplaire, c'est Singapour. C'est très frappant, quand vous discutez à Singapour avec des Singapouriens, de voir combien la planification stratégique sur l'organisation du territoire, de la ville, des nouvelles énergies, etc., tout ceci est totalement intégré dans l'appareil gouvernemental. Voilà, ça c'est un exemple peut-être atypique, mais peut-être que ce n'est pas aussi facile, évidemment, dans une démocratie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas énormément de choses à améliorer en France.
Oui, et justement, pour revenir sur le cas français, on parlait tout à l'heure de la difficulté pour les dirigeants, l'exécutif, de prendre le pouls un peu de la population. On a eu une expérience cette année démocratique assez intéressante avec la Convention citoyenne pour le climat, qui là était en l'occurrence un moyen donné à des représentants de la population, en tout cas une frange de la population tirée au sort, de réfléchir sur du long terme et avec énormément d'auditions à un problème concret. Pour vous, c'est quoi ? C'est un épiphénomène qui n'aura pas d'impact finalement en dehors de cette petite expérience, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être amené à se démocratiser ou à s'amplifier ?
Alors, je pense que c'est quelque chose qui a un impact. D'ailleurs, on l'a vu hier avec la discussion entre Emmanuel Macron et un certain nombre de représentants de cette commission. Ça a été tout à fait, de cette convention plutôt, ça a été assez intéressant, assez fructueux. Ça ne veut pas dire encore une fois que le pouvoir doit retenir toutes les propositions. La grande difficulté...
C'était pas ce en quoi le pouvoir s'était engagé.
Ne vous inquiétez pas, ils ne retiendront pas toutes.
Hein. Encore une fois, c'est pas parce que des gens réfléchissent ou font des propositions que nécessairement le pouvoir doit toutes les avaliser. Ça, c'est évidemment tout à fait autre chose. Là où il y a une difficulté malgré tout, c'est que normalement, l'organe qui est chargé de légiférer, c'est plutôt quand même le Parlement. Et donc, c'est vrai que c'est très bien d'avoir eu cette expérience. Encore une fois, il faut retenir tout ce qui est positif dans cette expérience, mais c'est peut-être difficile de généraliser aussi parce que, tout simplement, il y a un problème de représentativité. On a pris des citoyens tirés au sort qui ont travaillé, qui ont bien travaillé, qui ont fait des propositions, il y a des discordances, mais aussi des accords, etc. Mais malgré tout, dans tous les secteurs, on ne peut pas imaginer cette chose-là. C'est-à-dire que déposséder aussi le Parlement dans son rôle de faire la loi pose effectivement un problème. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire du côté du travail parlementaire à proprement parler, de le connecter davantage avec des réflexions de long terme. Prenez un domaine sur lequel je travaille beaucoup, qui est celui de la politique internationale. Je m'aperçois que le Parlement français, à la différence d'autres parlements, est quand même relativement en retrait sur ces questions.
Oui. Et je trouve que... Alors ça, voilà, c'est aussi... Excusez-moi, je me permets de vous interrompre. C'est aussi lié à la Ve République et au rôle central de la défense en France, qui reste le précaré d'un homme, d'un ministre et du président. De la République. Je me permets, excusez-moi, de vous garder un petit peu attaché en France comme ça. J'ai une question sur donc ce gouvernement qui a ressuscité un petit peu le haut-commissaire au plan. On en a parlé brièvement en début d'émission avec la nomination de François Bayrou. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir du bon qui sort de ça, 2 ans avant l'élection présidentielle? On sait que les élections présidentielles aujourd'hui n'ont pas tendance à favoriser un retour du président pour un deuxième mandat. Là, notre ami Bayrou est chargé de réfléchir sur 10 ans, sur 20 ans. Il est censé remettre bientôt d'ailleurs un rapport avec les premières idées. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que quelqu'un va l'écouter? C'est un effet d'annonce?
Ben, écoutez, je pense que d'abord, ça peut être toujours écouté. Après, il y aura certainement des propositions qui pourront être prises ou pas. Et encore une fois, le propre, je crois, de ces organismes, c'est pas nécessairement de travailler pour uniquement le gouvernement en place, c'est aussi de travailler et de préparer des décisions ou de préparer l'opinion à des décisions que d'autres gouvernements pourront être amenés à prendre. Moi, j'étais très frappé. J'ai fait quand même, quand j'étais chef de service dans cet organisme, il y a quand même maintenant à peu près 20 ans, plusieurs rapports, beaucoup de collègues en ont fait aussi, et j'ai vu que certains de ces rapports ont nourri la réflexion de l'exécutif pendant 10 ans ou 15 ans. J'ai vu certains de mes rapports ou des rapports de collègues qui ont été encore une fois cités, exploités 10 ans après avoir été émis. Et ça, je pense que c'est une forme de bon travail. C'est-à-dire que le long terme, ce n'est pas uniquement la décision politique immédiate, c'est aussi la capacité de poser des débats qui vont être pris. Ça ne va pas donner lieu à des décisions tout de suite, mais ça va nourrir la réflexion progressivement.
Je ne voudrais pas vous laisser repartir sans vous parler d'un sujet qui tient particulièrement... à cœur, c'est celui de la crise écologique, la nécessité de cette action à long terme. Elle est challengée, on va le dire franchement, par la sensation de panique qui nous étreint dès qu'on voit sortir un rapport du GIEC ou tout simplement en faisant défiler nos publications sur les réseaux sociaux. Là, vous avez une population entière qui est en ce moment dans la position du lapin pris dans les phares, qui est en pleine tétanie. Comment est-ce qu'on peut penser le long terme et selon vous, les moyens déployés sur tout le spectre de l'échiquier politique? Est-ce que c'est suffisant par rapport à ce vers quoi on se dirige? Et est-ce qu'il y a encore une place pour la pensée à long terme alors que tout le monde nous promet qu'on est tous grillés dans 30 ans? Je vais y aller vite.
Oui, d'abord, on n'est pas grillés quand même dans 30 ans. Moi, je ne crois pas non plus au scénario, encore une fois, catastrophe. Enfin, je le crois à plus long terme que 30 ans, de toute manière.
Okay, 35.
Et encore une fois, le changement, ça commence maintenant. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, évidemment, chacun le sait, qu'il faut agir pour essayer de ménager un avenir à peu près décent, acceptable, respirable, hein, je parle de l'air, évidemment, pour les générations qui viennent. Voilà, et c'est maintenant. Le vrai problème, c'est effectivement qu'il faut avoir une certaine constance. Et donc, ce qui est important, c'est d'obtenir auprès de la plupart des partis politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, d'obtenir un certain nombre de consensus et de mettre en place des systèmes relativement irréversibles en ce qui concerne effectivement la transition écologique. C'est ça le vrai sujet. C'est-à-dire que, effectivement, si on avait un gouvernement, prenons un exemple type celui de Trump, etc., qui arrive et qui balaye toutes les mesures qui ont été prises, alors ça peut être en France, ça peut être évidemment dans d'autres pays qui sont encore beaucoup plus pollueurs que nous, évidemment, ça remet en cause tous ces efforts. Et je pense que la grande difficulté, c'est ça, c'est parvenir à un consensus entre la plupart des partis classiques et essayer d'éviter des phénomènes de disruption majeure dans les années qui viennent. C'est ça la vraie question.
Je vous remercie Nicolas Tenzer, vous étiez au micro de Jusqu'à Nouvel Ordre sur le 93.9 FM. Merci d'être intervenu à notre antenne. Tout de suite, pour les prochaines minutes, Alexandra Wodlarczyk de la rédaction de Radio Campus Paris nous emmène en Pologne où les combattantes luttant contre la décision du pays de restreindre brutalement le recours à l'avortement ne désarment pas. Vous écoutez le 93.9.
Bella Ciao, qui est originellement un chant de révolte antifasciste italien, a été réadapté par les femmes polonaises pour lutter contre leur gouvernement conservateur. Elle chante. Si vous ne voulez pas dire ciao à votre corps, prenez la bannière comme les autres sœurs et portez votre rébellion dans la rue. Le 22 octobre 2020, le tribunal constitutionnel polonais a jugé illégal l'avortement en cas de malformation de fœtus, durcissant une loi déjà très restrictive. Depuis, des femmes et des hommes protestent contre ces restrictions dans les rues de plusieurs villes et villages polonais ainsi qu'à l'étranger. Un rassemblement avait lieu à Paris le 13 décembre. J'ai eu l'occasion de parler avec une de ses organisatrices.
Agnieszka Kawczak, une des organisatrices de la manifestation de soutien Solidarité avec les femmes polonaises.
Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur cette manifestation ?
Alors, nous avons manifesté pour montrer notre soutien à toutes les femmes polonaises qui manifestent aujourd'hui très massivement dans les rues en Pologne. Mais on a aussi réussi à créer un petit mouvement. Et du coup, aujourd'hui, dans plein de villes, dans plein de pays, je crois qu'on est une trentaine de villes. Il y a des manifestations aux États-Unis, en Australie, après bien sûr à Berlin, à Londres, à Madrid. En France, il y a une manifestation à Strasbourg, à Nice et à Bordeaux. Nous voulons vraiment montrer notre soutien à toutes les femmes qui se battent en Pologne pour leur droit à l'avortement, mais ça va au-delà, c'est contre le gouvernement qui divise le peuple, qui tise la haine envers les personnes LGBT, toutes les minorités. On n'est plus dans un état de droit. L'Union européenne nous a fait rappeler plusieurs fois, ils ne veulent pas réparer des choses et ça empire. En plus, aujourd'hui, les femmes, elles manifestent et elles sont très courageuses parce que la police, elle est de plus en plus violente, elle reçoit des ordres de presque taper les manifestantes. Donc ils les enferment dans les rues, ils ferment les deux sorties et après ils essayent de créer des mouvements de foule. Il y a déjà des bras cassés, ils utilisent les gaz lacrymogènes très souvent. Donc vraiment ces femmes, elles ont besoin qu'on montre aussi notre soutien à l'international. Nous aujourd'hui on peut manifester tranquillement, la police nous accompagne, alors que là-bas c'est pas du tout le cas et elles sont arrêtées pour rien.
La date de ce rassemblement n'était pas due au hasard. Le 13 décembre 1941 est une date symbolique pour la Pologne. Ce jour-là, le gouvernement communiste a proclamé l'état de siège redoutant la perte du pouvoir face au syndicat Solidarność, dont des membres ont été incarcérés sans procès. Aujourd'hui, l'appareil de l'État mandate la police pour pacifier brutalement les manifestants.
C'est pas la première manifestation, on manifeste depuis 2016. Depuis qu'il y a eu les premiers projets de durcissement de loi, à cette époque-là, on a un peu réussi. Donc je pense que c'est sûrement pas la dernière, on n'a pas encore une date précise, mais voilà, on reste en contact avec toutes les organisatrices et je pense que on va faire une autre manifestation avec une date peut-être pareille à l'international pour montrer qu'on est là tout ensemble, même les Polonaises à l'étranger.
En Pologne, les avortements sont rares. Selon les statistiques officielles, il y en a environ 1000 par an, car les médecins subissant des pressions fortes de la part des fondamentalistes ou étant eux-mêmes religieux, ont recours à la clause de conscience pour refuser de réaliser les avortements. Pour les femmes qui n'ont pas le droit d'avorter légalement, des solutions existent. Partir à l'étranger ou avorter clandestinement, à leur risque, ce que font près de 200 000 Polonaises par an, selon les organisations féministes. Fort de ce constat, ces organisations veulent que le droit à l'avortement soit inscrit dans un texte européen qui ne puisse pas être remis en cause par les gouvernements de certains pays.
Il faut vraiment une grosse révolution dans les mentalités, dans les cœurs de gens pour arrêter de s'aimer la haine et toute cette colère.
Pensez-vous que ce sont les femmes qui vont faire la révolution ?
Bien sûr, ça fait des années que j'y crois.
Les femmes sur les barricades.
Les femmes sur les barricades.
Sujet mis en onde par Alexandra Volarchik des équipes de la rédaction. Qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on lit pas avec Nicolas Rivoisi que j'accueille juste après cette virgule. Attention les yeux.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Pour nous donner un peu de joie en cette période morose, je vous propose la chronique PNL de Nicolas Rivoisi qui va nous parler ce soir de Schopenhauer.
Et oui, car si ce philosophe est le plus lu des étudiants en droit qui sont persuadés de pouvoir gagner leur concours grâce à l'art d'avoir toujours raison, il faut savoir que c'est avant tout l'auteur du monde comme volonté et représentation. Dans ce magnifique ouvrage sorti en 1818, Schopenhauer nous décrit toute la joie d'être un être humain. Un livre qui devrait passer entre toutes les mains et notamment celle de vos amis les plus dépressifs.
Alors moi, à chaque fois que moi et mes amis parlons, ça nous arrive très très souvent de ce philosophe, on me le décrit comme le plus pessimiste sur notre condition.
Oula, il ne faut pas exagérer. Avant toute chose, il faut parler de cet auteur extraordinaire, né le 22 février 1788 à Danzig. D'abord destiné par son père au commerce, ce génie en puissance trouve le moyen de s'émanciper de sa condition pour aller faire l'art le plus excellent, la philosophie, en devenant professeur dans une prestigieuse université de Berlin. Pour bien comprendre la puissance de son œuvre, examinons sa pensée. Pour ce cher Arthur, le monde est composé en deux parties. La représentation, simple reprise de la vision kantienne de la théorie transcendantale des éléments, dont je suppose que tout le monde connaît, mais aussi de la volonté, et c'est là que les choses se compliquent.
Ça était déjà bien assez compliqué pour moi comme pour nos auditeurs, je pense.
Ah bon ? Bon, bref, la volonté chez Schopenhauer, c'est en gros nos désirs, chose que Spinoza aurait qualifiée de conatus. Pour le faire simple, c'est la capacité de l'être humain à désirer toujours quelque chose. Mais là où est la brillante idée de Schopenhauer par rapport à Spinoza, c'est qu'on ne peut pas s'en défaire si facilement.
Bah oui, pourquoi devrait-on se défaire de nos désirs ?
Ah oui, j'ai oublié de préciser. La volonté nous enferme dans un cercle vicieux qui fait que soit on souffre, car nos désirs ne sont pas accomplis, soit on s'ennuie, car notre volonté, conditionnant notre joie, n'a plus de désir. Il paraît alors assez indispensable pour Schopenhauer de se débarrasser totalement de notre volonté. Pour cela, il nous propose trois voies. D'une part, la philosophie, qui avec un travail acharné ne nous amène pas à pouvoir se défaire de la volonté, mais plutôt à la découvrir. Il y a aussi la voie de la contemplation, qui nous amène à nous déposséder totalement de notre volonté en détruisant notre être. Ou encore, la voie de l'art, qui nous permet de dépasser notre volonté, mais de manière totalement temporaire, mais surtout incompréhensible par notre raison.
Alors attendez, parce que vous m'embrouillez là. Donc, pour être joyeux, il faut lire Schopenhauer ?
Justement, non. Cher auditeur, si vous ne voulez pas finir comme moi, ne lisez jamais Schopenhauer. Je suis tombé dedans étant petit et je me retrouve souvent dans la rue à flâner tout en me disant que la vie ne sert à rien.
Comme la potion magique.
Schopenhauer, bien qu'il soit mon philosophe préféré, sans que je sache pourquoi, n'est pas à lire dans cette période. Il est encore plus pessimiste que Baudelaire, misogyne dans certains passages, homophobe d'une rare qualité, en somme un pur produit de son époque. Quelqu'un de brillant, mais qui s'est perdu dans l'immensité de la philosophie. C'est avant tout le but de cette chronique, cher auditeur. Vous faire découvrir un auteur à mettre dans sa pile à ne pas lire, d'où le titre de cette chronique, PNL.
Comme vous êtes astucieux, mon Rivoisi, ça me touche. Ça va vous en ce moment, vous êtes content d'être là ?
Ça va.
Eh ben merveilleux, on se met une petite virgule ?
Une
petite virgule.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi, à 19h, sur Radio Campus Paris.
Jusqu'à nouvel ordre, qui, je vous le rappelle, peut se prononcer Jeannot, comme le nom de ce lapin que vous aviez étouffé en partant en vacances à 8 ans. Moi, j'aime bien ça, c'est tout fluffy. J'ai une chronique là à venir tout de suite, et c'est une chronique de Noël.
Alors moi, ce que j'aime à Noël, c'est retrouver toute ma famille. En général, c'est le seul moment dans l'année où je peux retrouver tous mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, que je vois pas le reste de l'année.
Depuis toute petite, c'est un moment où je sais que je vais passer la soirée avec mes parents, où la table va être plus belle que d'habitude, où peut-être on va aussi bien s'habiller, ça dépend des années, et le lendemain ça va être pareil, et toute cette semaine et tout ce mois même va être un peu spécial.
Et puis quand il y a des enfants autour, c'est vraiment... je trouve que c'est le moment où c'est plus chouette, quoi, parce qu'il y a des étoiles dans les yeux et que là, on a vraiment l'impression que c'est magique, quoi. C'est assez incroyable.
Cette année, Noël sera un peu différent au vu de la situation actuelle. La préparation est déjà plus incertaine. Avec les annonces gouvernementales qui arrivent au fur et à mesure, ce qui ne permet pas d'avoir une vision à long terme sur qui peut venir, quand, comment, pour faire quoi.
Mes grands-parents ont peur d'être infectés, donc en fait c'était prévu qu'on aille les voir et donc on va pas pouvoir se retrouver en famille.
Depuis le début du confinement, on s'est mis d'accord avec la famille éloignée, les cousins, cousines, oncles et tantes, que Noël en famille éloignée ne pourrait pas se faire cette année.
J'avais prévu tout au début de l'année de partir en fait cette année pour fêter Noël au Brésil, voir mes amis, voir ma famille. Par contre, vu la situation actuelle du pays, vu les difficultés aussi pour quitter l'Europe, rentrer en Europe pendant la pandémie, donc j'ai décidé de rester en France, en Europe.
Dans notre cas, on a décidé de porter le masque la soirée de Noël, à l'exception du repas, mais dans la mesure du possible, éviter de prendre des risques.
Sinon, non, on n'a pas prévu de porter le masque. De toute façon, je ne le ferai pas. Voilà. Parce qu'on ne fait que boire, donc pas besoin de porter de masque.
Je ne vais pas me confiner pendant quelques jours par sécurité, car je travaille jusqu'au 24 et je reprendrai le 4. Je n'ai pas la possibilité de prendre des jours de vacances plus que d'habitude.
Oui, en effet, je vais me faire tester. Mais ça m'embête parce qu'apparemment, il faudrait le faire 2 jours avant et se confiner pendant 2 jours. Mais chose que je ne peux pas faire parce que le travail, il faut que je me déplace. Et ce qui m'embête, c'est que je me sens en forme et qu'on m'impose un peu de se faire tester. Donc, c'est un peu bizarre. On ne sait plus trop comment c'est. Mais voilà. Oui, je vais me faire tester.
Vous venez de les entendre, ces témoignages.
Tout simplement parce que Noël n'est pas une fête comme les autres. C'est une célébration centrée sur la famille, sur fond de capitalisme, dont le coronavirus vient contrarier la réalisation. Je m'explique. Le texte « Sacré Noël », écrit par Richard Ladwin et Éric Rémy, publié dans la revue Mos en 2014, revient sur cette fête et sa signification. Si Noël a des origines païennes, puis qu'elle est reprise par l'Église chrétienne, elle perd son caractère religieux depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Le sacré de la religion est remplacé par une autre sacralisation, celle de la famille, comme on a pu l'entendre dans les témoignages précédents.
C'est magnifique. Viens avec moi. Viens chez mes parents pour la fête de Noël.
Noël a été étudié par de nombreux sociologues qui y voient un ensemble de rites dans le milieu familial. Le sociologue Erwin Goffman interprète notamment le repas comme une scène rituelle où chaque participant joue un rôle particulier. Un repas souvent marqué par l'abondance et la particularité qui rompt avec le reste de l'année. Une autre particularité de Noël, c'est le traditionnel échange de cadeaux, un échange mené par les aînés vers les plus jeunes. Or, les aïeux seront justement les grands absents des fêtes, étant particulièrement fragiles face au virus. Avec un réveillon limité à 6 adultes, selon les préconisations du gouvernement, pas de regroupement familial large cette année. Et bonjour les sessions Skype de déballage de cadeaux. Sûrement pour combler le manque, les Français ont décidé de dépenser plus cette année, selon une étude Cofidis publiée le 24 novembre dernier. À noter que les plus pauvres ont déclaré l'inverse. Plus touchés par la crise sanitaire, leur budget sera donc à la baisse.
Merci à cette jeune personne de la rédaction de Radio Campus Paris pour cette petite chronique en période de Noël. Pauline Rossano nous a rejoint en studio. Pauline, ce soir, votre zoom se penche sur un webzine au contenu militant.
Et oui, bon sang que ça fait du bien de pouvoir en parler. Car oui, parler de ces machins, ces trucs, ces anglais, on voit que parler de ces ragnagnas dans notre société, eh bien ce n'est toujours pas une tâche facile.
Mais alors, de quoi va-t-on parler ce soir?
Je vous propose d'écouter ça.
Mm-hmm.
Ou pas.
Je n'entends pas grand-chose. Bon alors écoutez, générique, il y a un tabou, absent. Là on est en 2020, qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui?
Eh bien, comme le dit notamment la féministe américaine Roxane Gay, si vous ne la connaissez pas d'ailleurs, allez filer l'écouter, elle déclare « Le féminisme, avant d'être pour tout le monde, doit être pour chacune ». Alors les règles, un tabou qui se transforme en atout. Pour en parler ce soir, je ne suis pas seule, j'ai avec moi une jeune femme qui a créé à la rentrée un web magazine qui se nomme Bon Sang, S-A-N-G, spécialement dédié aux règles. Salut Anaïs, est-ce que tu es avec nous?
Salut, oui je suis là.
Ah que de joie, vous venez de faire ma soirée Anaïs, bonsoir.
Bonsoir.
Comment tu vas?
Ça va, un peu fatiguée parce que je viens de faire les parcelles aujourd'hui, mais ça va.
Est-ce que tu peux d'abord alors, te présenter et nous parler un peu de ton parcours?
Alors, moi je m'appelle Anaïs, je suis née sur Paris, mais j'ai vécu 10 ans aux États-Unis, et pour faire mes études, je suis repartie sur Paris. Et c'est là où j'ai eu cette opportunité de faire mon webzine. Donc voilà, j'ai aussi une chaîne YouTube, Simple Anaïs sur YouTube, qui... Ça dit quelqu'un, et puis voilà, en termes de parcours, je pense que j'ai résumé ça.
Super, et du coup, ce web magazine, donc exclusivement consacré aux règles, comment as-tu eu cette idée et surtout, d'où t'es venue cette inspiration de créer un web magazine?
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis venue sur Paris pour faire mes études et je fais des études en communication digitale. Du coup, on a beaucoup de cours centrés sur le digital et un de nos cours, c'est web design. Et du coup, en fin d'année de l'année dernière, notre prof nous avait donné comme projet de fin d'année de créer notre propre magazine en ligne. Et elle nous avait dit, quand on faisait le projet, de vraiment faire quelque chose de précis, comme ça allait être plus simple, et aussi de faire un magazine que nous, on aurait aimé lire si on était un lecteur ou une lectrice.
Oui, c'est ça, ça
et
touche... toute la population, notamment, quelle tranche d'âge en particulier
La tranche d'âge, ça touche tout le monde, qu'on soit une personne de 13 ans ou qu'on soit quelqu'un qui a 35 ans, vraiment ça dépend. Tout le monde est la bienvenue.
Et même public masculin.
Justement, oui, je me permets, vous m'avez volé la question que je voulais vous voler, Pauline Rossano, merci. Je voulais faire un peu de mansplaining et de mansterrupting, histoire d'être bien en phase avec mon époque. Justement, il y a des retours de la part du public masculin.
C'est-à-dire qu'en fait, je viens de lancer la partie pour les hommes, là, en décembre. Mmh. Du coup, j'attends quand même encore un peu des retours parce que l'édition vient juste de sortir, la deuxième édition. Mais pour l'instant, c'est plutôt positif.
C'est parce qu'on est trop fiers, c'est pour ça qu'on refuse de répondre, Pauline.
Alors, le côté visuel, il faut qu'on en parle parce que le magazine est beau, il est agréable à voir. Moi, c'est ce qui m'a vraiment accroché au départ avec le thème du rouge. Donc, comment ça s'est venu cette idée et comment ça s'est fait?
Alors, comment est venue l'idée? L'idée, vous dire, sur les règles ou...
Non, la mise en scène du journal.
D'accord, la mise en scène. Déjà, moi, je voulais vraiment mettre du rouge parce que, c'est pas bleu, c'est pas violet, c'est du rouge. Donc, je voulais vraiment mettre bien ça en avant.
C'est important,
et
oui.
Faire comprendre aux gens que c'est pas comme dans les pubs qui nous montrent que c'est du bleu ou autre chose. Et là, c'était très important pour moi de le faire. Et il y avait beaucoup de gens, justement, qui m'ont dit « J'espère que tu vas pas mettre du bleu quand tu vas montrer du sang, parce que, voilà, quoi. » Et moi, j'étais d'accord. Après, je voulais vraiment créer un univers un peu... Alors, j'aime beaucoup la mode. Du coup, je voulais vraiment recréer le même univers qu'un magazine de mode, mais en le liant aux règles, en fait. C'est un peu ça avec la typo, et même si on va sur Instagram, je voulais un peu faire un mash-up des deux. Et après, je travaille avec une ancienne amie de l'école qui s'appelle Lord et qui elle est la graphiste du magazine.
D'accord.
Et avec elle, on a eu plusieurs idées comme ça, faisant du brainstorming sur ce qu'on voulait faire et vraiment l'univers qu'on voulait amener sur Bon Sang.
Et est-ce que tu penses que du coup les règles, ça reste quand même toujours un tabou ou moins qu'avant?
Oui, je pense que c'est toujours un tabou, même si on commence à voir plusieurs personnes qui en parlent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télé ou même avec des gens, mais c'est marrant parce que moi quand je dis que j'ai fait un magazine sur les règles, les gens ont tendance à être un peu pas gênés, mais il y a un peu de... Ah ouais, les règles. Et c'est ça qui est drôle. Mais c'est vrai que je trouve que
c'est un côté...
si c'est un sujet qui nous concerne tous, toutes.
Oui. C'est vrai.
C'est vrai que les gens ont quand même un peu... Ils n'ont pas vraiment envie d'en parler. C'est juste très...
C'est presque comme un...
comme sujet.
Ton magazine, c'est presque comme un mode d'emploi, en fait. On apprend comment fonctionne notre corps. Et pour les plus jeunes, c'est génial parce qu'il y a beaucoup d'idées, notamment sur les cups, sur les serviettes aussi hygiéniques et aussi les culottes hygiéniques. Et ça, c'est vachement pratique. Et franchement, c'est génial. Et est-ce qu'il y aura du coup un format papier? Moi, j'aimerais bien.
Alors, pour la première partie de ta question, oui, je voulais parler de tout, hein, parce que les culottes et les cups, c'est lié aux règles. Et je trouve que ces nouvelles protections hygiéniques, ça révolutionne nos règles et ça nous fait rendre compte
ça nous met à l'aise.
Elle est en train de s'évanouir, appelez quelqu'un.
Ça nous montre à quel point combien on perd en termes de sang,
et oui,
etc.
C'est vrai.
Et après, je me rappelle plus de la deuxième question.
La deuxième question. Est-ce qu'il y aura un format papier? Parce que alors, c'est trimestriel, c'est ça? Ça paraît tous les trois mois.
Exactement.
Et il y aura peut-être un format papier ou c'est que sur Internet?
Alors, pour l'instant, ça sera sur Internet. Mais c'est vrai qu'un de mes plus gros souhaits et rêves, c'est de sortir une version papier. Du coup, j'espère, peut-être pour les 1 an du magazine, que je puisse sortir la version en papier.
Super.
On croise les doigts. Merci Pauline Rossano. Merci à votre invité. Au revoir Anaïs. Ça m'a fait plaisir de vous entendre. Vous m'avez l'air pleine de joie et puis vous faites quelque chose qui est utile à la société. Je conseille aussi le compte de Jack Parker si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur le tabou des règles, ainsi bien sûr que le webzine de notre invité. Tout de suite avec nous Pitoum. Vous êtes-vous déjà fait la réflexion que votre nom somme comme le début quand Netflix se lance?
Pitoum.
Exactement. Ouais. Voilà. L'émission touche à sa fin, ce qui n'est jamais jamais pour lui déplaire. Voilà-t-il pas que dans le studio, toujours là, Pitoum est ici. Charismatique comme un porte-manteau, la gouaille d'un premier de la classe martyrisé et la verve d'un moine cistériencien. Sincèrement, cistérien suffira. Endormi, tant de qualité que dans un seul bonhomme, c'est quand même pas banal. Aurais-je alors l'outrecuidance de vous demander si vous m'avez écrit un lancement ? Vous n'aviez jamais qu'une dizaine de mois pour le faire depuis notre dernière émission ensemble.
Et oui, mais non, mais pourquoi vous écrirais-je un lancement ? Je ferai des fautes, enfin. François.
C'est pas faux.
François. François, plus tard, tu me confieras qu'alors que nous farcions à l'antenne, que tu fronçais intérieurement tes sourcils noirs et impeccablement dessinés à l'aube de ton front florissant, car au-delà des anagrammes, il y en a eu trois, je sais que mes vaillantes vannes sur mon vie sont bien vite vaines, car tu as, pour la délicatesse et la subtilité, un attachement ancestral, viscéral, que chaque glissement sémantique, chaque lapsus bien volontaire, chaque grossièreté assumée irrite. Ah, ça blesse ton tympan, hein, tel l'écouvillon d'un test PCR vaguement consenti, et c'est dire si tu as du courage de m'accepter aujourd'hui à ce micro, car l'on sait tous les deux que pour ta prose à fleur de peau malogorée grivoise est un supplice sadique, et qu'à ton sens de l'esthétique il devient pénible d'éprouver la barbarie de mes mots de plus en plus durs. Comme ma bite.
Tu fais des boutons, mon grand blond, comme dit en résumé.
Auditrice, virus de ma vie, vaccin de mes angoisses, zeste barrière contre les pires recettes que nous servent les vicissitudes troublantes de ce monde, qu'il est bon de te retrouver enfin, mon vice. Nous sommes dans la dernière ligne droite, plus que 16 jours dans cette année de l'angoisse. 16 putains de jours pour en finir avec cette année de merdasse, bordel d'enfoiré de pangolin de mes deux. Et le 15 décembre 2020, dans un monde où Joe Biden est quasiment, presque encore, à nouveau, pas loin d'être élu pour de bon président des États-Unis d'Amérique. Bonjour. C'est une tradition, ou presque, hein, c'est à moi que revient à chaque année le rôle, l'honneur de faire un peu la synthèse de l'an qui vient de s'écouler, car telles les personnes qui finissent toujours par sortir de mon lit sans jamais avoir l'intention d'y revenir, j'ai pour les bilans une affection certaine, saupoudrée d'une jalousie mal dissimulée, étant moi-même désespérément hétéro-rapide. Alors bon... On va pas se mentir, hein, je suis pas sûr d'avoir envie de le faire, ce bilan 2020. L'année 2020 a été oblitérée par la pandémie. Est-ce que tu te souviens, auditrice, que cette année, il y a eu des élections municipales, hein, qui se sont terminées en fait que le 28 juin, alors qu'on a l'impression que c'était il y a 1000 ans, en fait. Est-ce que tu te souviens de Marcel Campion ? Hein, pas sûr. Est-ce que tu te souviens de Christophe Bercani ? Non, pas du tout. Cette année 2020 fut un enfer à tout point de vue, hein, politiquement avec la réforme des retraites, la loi sécurité globale, le Ségur de la santé, écologiquement avec les records de chaleur, les incendies en Australie et en Californie, socialement avec l'augmentation de la précarité, les centaines de milliers de pauvres en plus dans notre pays, il n'y a rien à sauver de 2020. Du coup, bon, puisque je suis là quand même, je vais te partager un petit truc bien à moi, quand ça va mal, les multivers. Alors, les multivers, en gros, c'est l'idée des univers parallèles qui présupposent que tout ce qui peut arriver arrivera ou est déjà arrivé. Par exemple, là, je suis devant le micro et tout à coup, je fais un bruit de paix avec la bouche, ce que François trouve particulièrement déplacé.
Merci.
Eh bien, dis-toi qu'il y a au moins un univers où je ne m'autorise pas cette digression scatophile et où François ne s'en porte que mieux.
Et c'est pas celui-là ?
Non, terrible. Hein. Donc, faisons donc un petit bilan de l'année 2020 de cet univers, justement, celui-là. Et on va y aller tout de suite avec janvier. Janvier, le Brexit réussit. À la table des négociations, l'Europe et la Grande-Bretagne concluent qu'il faut respecter les choix démocratiques et les Anglais quittent l'Europe en bons termes sur un accord interdisant le libre-échange mais autorisant la circulation des personnes, les échanges culturels et artistiques et l'importation des séries de la BBC. Février, Amnesty International relance une campagne de sensibilisation sur le sort des Ouïghours. Les casques bleus sont envoyés en Chine pour superviser le démantèlement des camps. Xi Jinping tweet « Désolé, j'ai déconné. » Mars, Benjamin Griveaux perd largement les municipales à Paris, mais personne n'a vu ses couilles. Avril, lancement d'un grand programme mondial carbone neutre qui interdit toute activité financière spéculative sur les entreprises polluantes. On crée une force coercitive mondiale qu'on appelle les COP21. Mais, en réponse à ces mesures, le mois de mai décide que non, en fait, il ne sera pas le plus chaud jamais enregistré dans le monde. George Floyd respire. Juin, l'Euro de football se déroule sans sponsor, les joueurs ayant unanimement décidé de faire grève jusqu'à ce que, je cite, « on cesse de les utiliser comme les hommes sandwich du grand capital et pour la spoliation des masses laborieuses ».
Merci à eux d'ailleurs.
On pense à eux. Hein. Juillet, le Japon surprend tout le monde en transformant les Jeux Olympiques en un événement familial de promotion du sport et de la santé. Tout le monde gagne une médaille de la participation.
Oui !
Août, le tourisme à Beyrouth explose, ce qui met en lumière le sort des réfugiés. Le Rojava prend pacifiquement le contrôle de la Syrie. On assiste à la naissance de la plus grande fédération démocratique de l'histoire. Erdogan démissionne. Septembre, Jean-Michel Blanquer meurt lors d'une visite d'école maternelle en s'étouffant avec de la pâte à modeler goût fraise.
Ça n'aurait pas duré aussi fort.
Octobre, ça nous fait plaisir. Octobre, la Corée du Nord, ouvre ses frontières et demande au Rojava comment ça marche leur truc de fédération démocratique. Novembre, Trump tweet « Congrats to Joe Biden, the 46th president of the United States. P.S. Joe, I left a chocolate cake in the fridge. » Décembre, à l'antenne d'une petite radio locale, un chroniqueur qui ne fait pas de bruit de paix impromptu se félicite pour cette année écoulée. Tout n'est pas rose, hein, mais on a fait des progrès. Le monde va un petit peu moins mal qu'il y a un an. Voilà. Alors malheureusement, notre univers, hein, tel un mec qui promet qu'il va changer, ne cesse de nous décevoir. Et 2020 ne fut en rien une année dont l'humanité est sortie grandie. Reste à savoir comment s'annonce la suite. Et pour 2021, l'île Fraser située en Australie est depuis des semaines consumée par de terribles incendies et Sydney recommence à battre des records de chaleur. Je sais pas toi, auditrice, mais moi j'en ai un peu ma claque des reboots.
Juin, le tourisme à Beyrouth explose. Saligo, saligo. Vous êtes mon choubichou, cher Pitoum. Toujours tout doux, toujours debout. Tout de suite, on se barre, générique. Oh, nom de Zeus. Vous sentez comme ça arrive en arrière-plan de vos oreilles? Il me reste environ 1 minute 30 à 2 minutes pour féliciter déjà tout particulièrement les deux personnes qui sont à ma gauche et à ma droite. J'ai nommé Pauline Rossano et Pitoum. Explosion de bruit et d'applaudissements dans le studio. La foule est en délire. Un grand merci à tous ceux qui ont fait vivre cette antenne ce soir. C'est un peu troublant de remettre les pieds dans le studio, mais quel plaisir. Anaïs Martinez, bien sûr, notre productrice, Nicolas Rivoisi, Alexandra Voldarchik, Nali Pitoum. Pauline Rossano, c'est une deuxième fois un grand bravo. Et notre réalisatrice, comment l'oublier, Margot Page, derrière la vitre du studio. Ils ont tous mérité leur petit lopin de terre sur les vertes prairies de ma reconnaissance. Jusqu'à nouvel ordre, émission temporaire par essence censée tant troublée revient le 17 à 19h. Ne bougez pas, car la soirée continue sur le 93.9 FM avec la demi-heure, 30 minutes d'analyse politique aussi réconfortante qu'un coup de couteau dans le ventre. C'est avec Pitoum qui excelle dans cet exercice et qui ne quittera pas ce studio.
Il est enchaîné.
Qu'est-ce qu'on parle de quoi? Comment ça se passe?
Alors, on va parler de l'islamo-gauchisme et de l'interview de Macron avec Brut.
Mais est-ce que vous avez parlé d'autre chose cette année?
Ben non, mais on n'a pas eu beaucoup d'émissions.
C'est pas faux. Car comme vous le savez tous, l'année a été légèrement perturbée. On est ravis quand même d'être avec vous ce soir. J'ai encore une petite 20 secondes à passer en votre compagnie. Et puis j'en profite. J'ai envie de vous dire que mine de rien, malgré tout, on va bientôt pouvoir aller se reconfiner les uns sur les autres pour ce petit temps de permission et de liberté qu'on a. Ça nous fait plaisir. Restez avec nous. Tout de suite, c'est Pitoum qui excelle à l'exercice de la politique et des coups de couteau. Je vous conseille personnellement, c'est ma reco du jour. Adios, compañeros. Prenez soin de vous. C'était Jeannot, jusqu'à nouvel ordre. Le petit lapin dans vos oreilles.